Bonjour à tous, enfin ou plutôt bonsoir, bienvenue dans cette troisième foire aux questions. Alors Maxime Hector, notre éditeur, m'a dit surtout cette fois-ci, arrête de faire des monologues, arrête de faire des tunnels et laisse la parole à tout le monde. Donc on va essayer de prendre un maximum de vos questions et de faire des réponses plutôt courtes. Voilà. Donc Maxime, bah tiens, passe-nous une première question.
Ben salut Serge, bonsoir à toutes et à tous. Bon, je rappelle le principe, hein, foire aux questions, c'est la troisième qu'on organise sur Pure Politique. On va parler de la rentrée politique, de l'inflation, du budget, de l'avenir de la chaîne Pure Politique, hein, parce que c'est aussi important. On est là pour ça. Et donc, vous pouvez poser vos questions directement sur le chat et Serge, notamment, pourra y répondre directement. Voilà, n'hésitez pas, on va essayer d'y répondre au maximum. Alors, on avait quelques questions aussi en attente de personnes qui ne peuvent pas être là, notamment ce soir. Et il y avait une question notamment sur est-ce que Pure Politique allait faire des partenariats avec d'autres médias, Serge Faubert?
Écoute, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Pourquoi? Parce qu'on essaye quand même de développer la chaîne avant de se lancer dans des partenariats. On a besoin d'affirmer l'identité de la chaîne. Et puis, les partenariats, je vois mal pour l'instant avec qui. Enfin, je sais que un certain nombre de gens partagent cette idée que nous pourrions être tous les médias indépendants sur une même chaîne, sur une box, etc., voire dans un même immeuble. C'est une idée récurrente. Mais d'abord, je pense qu'il faudrait appeler l'ONU pour éviter des affrontements dans les couloirs, parce que les relations sont pas très bonnes entre les différents médias indépendants pour des raisons simples. D'abord, il y a de la concurrence, il faut pas se voiler la face. Et puis, deuxièmement, il y a une histoire. Moi, je suis passé déjà dans deux médias. Voilà, on n'a pas forcément gardé des relations très amicales avec les uns et avec les autres. Donc, on n'a pas forcément envie de travailler ensemble. Et puis surtout, il y a une différence de ligne éditoriale. Voilà, la ligne éditoriale de Pure Politique, c'est pas la ligne des autres médias. Voilà.
Est-ce que tu peux parler un chouïa plus fort, Serge? Par contre, s'il te plaît.
Bah écoute, ouais.
Bon, je vais monter un peu. Dites-nous s'il y a des soucis, si vous entendez bien ou pas, parce que je peux régler un petit peu en live. Une question pour rentrer directement dans le vif du sujet, hein. Vous savez que depuis la rentrée, l'actualité politique est quand même très, très tournée vers la NUPES et la gauche. Donc, Serge, est-ce que tu as des nouvelles sur l'avenir de la NUPES? C'est une question de François.
Oui, alors je vois quelqu'un qui me demande si je suis ministre de l'information du Kremlin.
Ah, ça t'intéresse plus. Pas étonné.
Alors, l'avenir de la NUPES, en tout cas, il est proche de zéro. On peut dire que ça s'est joué lundi soir lorsque Olivier Faure, qui s'est présenté à la réunion des jeunes de la NUPES, a constaté que les dirigeants écologistes n'étaient pas là, c'est-à-dire Marine Tondelier et Marie Toussaint, qui est la tête de liste des Verts. Donc, hein, en leur absence, il a pris acte que les négociations sur une hypothétique liste commune étaient terminées. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ben, chacun va faire campagne de son côté. On parle d'un pacte de non-agression qui serait signé. On en est là, c'est-à-dire on est obligé de rédiger un pacte de non-agression pour éviter que les partenaires d'hier s'égorgent publiquement devant les caméras. Et puis, il y aura en juin les résultats des européennes. Et on constatera deux choses, à mon avis. C'est que, premièrement, l'ensemble des listes qui composaient la NUPES, c'est-à-dire la liste des écolos, la liste du PC, la liste de LFI, la liste du Parti socialiste, ces listes-là vont faire un bon score. Et tout le monde va dire, ah ben, si on additionne les quatre listes, c'est formidable, on atteint un score qu'on n'envisageait pas. Certainement, parce qu'on ratisse plus large. Avec des listes éclatées, on ratisse plus large. Il y a des électeurs socialistes qui ne voulaient pas voter pour le Parti socialiste s'il y avait des candidats LFI sur la même liste. Je pense aux gens qui sont derrière Cazeneuve, qui sont derrière Carole Delga, qui voteront certainement pour la liste socialiste. Donc chacun va faire le plein de son électorat potentiel. Ça, c'est très bien. Mais le problème, c'est que comment va-t-on expliquer aux électeurs que on est allé à la bataille séparément et que dès le lendemain, on va tous se retrouver, s'embrasser et partir pour de nouvelles aventures de la NUPES. Ça va être dur à expliquer, très dur à expliquer. Voilà le problème de fond. Donc, en plus, il y a une dynamique, disons, d'affirmation identitaire qui va s'engager. Chacun va vouloir défendre sa boutique, se singulariser et mettre l'accent sur les différences avec le petit copain. Donc, à l'arrivée, la NUPES, ce sera une peau de chagrin. Et je serais très étonné qu'elle survive à l'été prochain.
Alors d'ailleurs, concernant la NUPES et les européennes, Serge, on en parlait là récemment, tu me disais que la stratégie, par exemple pour la France insoumise, de présenter une liste commune, c'était pour ne pas trop voir le poids des différents partis qui composent la NUPES.
Plus exactement, quel est l'enjeu réel de ces élections européennes? L'idée, c'est d'installer une nouvelle grille de répartition, une nouvelle clé de répartition entre les quatre partenaires, et parce que les socialistes disent bon bah écoutez, on va pas rester éternellement sur le score d'Anne Hidalgo. Les Verts disent oui, on s'est pris un râteau avec Jadot, mais en réalité on représente un petit peu plus dans l'opinion. Et les communistes disent derrière Fabien Roussel, aujourd'hui on peut atteindre des sommets. Donc chacun est persuadé de représenter beaucoup plus que ce qu'il a récolté lors de la présidentielle. Et l'idée des européennes, en allant chacun à la bataille séparément, c'est de dire, on va se mesurer. Hein. C'est ce que Alexis Corbière, dans l'entretien que j'ai eu avec lui, que vous retrouverez sur la chaîne, appelle le congrès de la NUPES à ciel ouvert. C'est-à-dire, on va tous à la bataille séparément et on voit combien chacun pèse. Et ensuite, sur la base de ce rapport de force, on construit de nouvelles alliances, éventuellement un nouveau programme. Enfin, on rebat les cartes. Voilà, c'est ça la grande idée.
D'accord, merci. Du coup, tu parlais de l'entretien avec Alexis Corbière, parce que ça, c'est important, il faut qu'on vous en parle aujourd'hui. Donc, une question de FunFan1992 qui nous demande, est-ce qu'il y aura le même type d'interview avec d'autres bords politiques? Donc, si, pour ceux qui ont loupé le train, on a diffusé grande première dimanche un entretien avec Alexis Corbière. C'est une surprise, on ne vous avait pas prévenu. Donc, allez le voir si vous ne l'avez pas encore vu. N'hésitez pas à vos commentaires, vos avis. Donc, Serge, est-ce qu'on fera des gens de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche?
Alors, on fera des gens de tous les partis représentés à l'Assemblée nationale. Moi, je les interroge tous, régulièrement, celle des quatre colonnes. Je ne vois pas pourquoi je m'interdirais tout à coup de mener des entretiens avec les uns ou avec les autres. Et je pense que, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire, oui, mais comment faire un entretien avec un représentant du Rassemblement national, c'est contribuer à leur dédiabolisation, à leur banalisation. Alors d'abord, ils sont largement banalisés. Je vous signale quand même que ça fait deux fois que Marine Le Pen est au second tour de la présidentielle. Donc, dans le côté dédiabolisation ou banalisation, c'est pas un entretien éventuel d'un responsable du Rassemblement national avec Serge Faubert qui va changer grand-chose, hein, dans un sens ou dans l'autre. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que un entretien, c'est pas servir la soupe. Donc, au journaliste qui reçoit un invité, ou en tout cas qui s'entretient avec un invité, de préparer l'interview et de venir avec des questions, non pas des questions pièges, mais des questions qui interpellent la cohérence politique d'un discours. Voilà, je l'ai fait avec Alexis Corbière, je le ferai avec d'autres responsables de gauche, de droite et d'extrême droite. Voilà.
D'accord, merci.
Mais alors, l'idée, c'est quand même de conserver un certain équilibre. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire 12 entretiens avec le Rassemblement national. Et, non, on va faire quelque chose d'équilibré, de mesuré et qui reflète la réalité politique du pays. Voilà, parce que
Puis
je
l'idée
pense que.
aussi, c'est de poser des questions qui fâchent parfois. Voilà, c'est.
Oui, c'est de poser des questions qui fâchent, mais des questions. Il y a deux types de questions qui fâchent. On peut s'attarder sur l'écume des choses, etc. Et puis, on peut aussi interroger la cohérence politique dans le discours. Et je pense que cette démonstration est beaucoup plus intéressante. D'ailleurs, on peut dire, voilà, je prends un exemple avec LFI. J'aurais pu dire à Corbière, alors le Venezuela, hein, bon. ou Sofia Chikirou, mais le débat, il n'est pas là. Le débat, il n'est pas là aujourd'hui. Le débat, il est LFI, comment ce parti évolue, ouvre les fenêtres, avance. Voilà, c'est ça la vraie question. Et c'est ce qu'on essaiera de faire avec chacun des invités avec qui je mènerai un entretien.
Ok, bah justement sur ce thème droite-gauche concernant pure politique, une question de Nasrudin Hamza. Ma question est la suivante. Pourquoi dans la plupart des reportages, vous ne présentez que l'avis d'élus de gauche, mais quasiment pas la droite? Pourquoi cela? Alors, je ne suis pas d'accord, parce que déjà lundi, on a fait un pôle express consacré à la droite et les Républicains. Donc Serge, si tu veux appuyer.
Alors là, je pense, je suis vraiment surpris parce que je donne très, 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 très souvent la parole aux élus de droite pour une raison simple. D'abord, enfin, aux élus de droite et aux élus du bloc présidentiel, hein, donc parce qu'ils sont présents, donc ils sont très largement représentés. Au moins, ils sont au moins autant présents que la gauche dans son ensemble, c'est-à-dire la NUPES, et peut-être un peu plus souvent. Voilà, donc j'invite notre spectateur à se reporter au numéro passé. Alors, bien sûr, il arrive qu'il y ait des numéros où on parle davantage de la gauche que de la droite. C'est évident, si je fais un numéro sur, je pense à la rentrée catastrophique de la gauche, il y a essentiellement des protagonistes qui appartiennent à la gauche. Mais quand je fais... Les LR sont à la ramasse, ou en tout cas sont les meilleurs alliés aujourd'hui des macronistes, bien sûr que je fais essentiellement les LR. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut voir l'équilibre, c'est un équilibre général sur la chaîne, mais il y a des numéros qui sont où il y a plus d'intervenants de gauche et plus d'intervenants de droite dans d'autres chroniques. Voilà.
C'est vrai que là, la rentrée politique a été très axée sur la gauche avec les différents remous à la NUPES. Il y a eu aussi la fête de l'humanité qu'on a traité. Tu as fait un reportage qu'on a intégré dans un pôle express. Mais voilà, on essaie vraiment de traiter, notamment quand tu vas à l'Assemblée nationale chaque semaine, de traiter autant de politiques, de personnalités politiques de droite comme de gauche. Question de Laurent Gardy qui nous demande pourquoi on ne fait pas d'international. C'est la seule chose qui manque à cette chaîne. Un petit peu trop franco-française.
Ben, chers amis, je suis très heureux que vous me posiez cette question et que vous allez tous vous précipiter sur DonorBox afin que nous puissions envoyer de nombreux journalistes sur les différents terrains. Pourquoi je ne parle pas d'international? Pourquoi je n'ai pas envie de faire des conférences ex cathedra sur l'international depuis la salle des quatre colonnes de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, moi, je voudrais vous parler de l'Arménie. Par exemple, cette semaine, dans le Bourbon de demain, je vais parler de l'Arménie parce que les députés en parlent. Il y a des positions très tranchées qui sont affirmées sur ce qui se passe en ce moment en Arménie et qui est très important. C'est-à-dire le Karabakh s'est terminé et maintenant c'est le sud de l'Arménie qui est menacé. Bon, et peut-être l'ensemble de l'Arménie. Donc, il y a un retard de la diplomatie française dans cette histoire. Il y a un rééquilibrage à l'échelle internationale, avec les Russes qui sont occupés ailleurs, avec les Turcs qu'on veut ménager pour des raisons énergétiques, les Turcs, les Azéris, c'est quand même le même bloc, on va dire. Bon, tout ça, je vais essayer de l'expliquer à travers les interventions de députés. Mais sinon, je ne vais pas faire régulièrement des conférences sur l'international, alors que ce n'est pas dans le débat politique national. Voilà. C'est-à-dire que on a choisi pour cette chaîne de parler de la politique française. J'aimerais bien parler de l'international, mais pour parler de l'international, c'est un tout autre investissement. Il faut des images, hein. Si on peut inviter des spécialistes, c'est ce que font certains confrères. Alors donc, on met un expert Pourquoi pas, on le fera, on le fera. Mais ça ne remplace pas non plus le grand reportage. Moi, je pense que c'est important d'aller sur place. Et ça, aujourd'hui, on n'en a absolument pas les moyens. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Hein. Moi, je veux dire, si je pouvais monter dans un avion et partir en Arménie, j'y serais tout de suite. Voilà. Mais on n'a pas les moyens.
Une question, n'hésitez pas à poser vos questions hein, sur le chat, merci, merci d'être présent. Une question de Papy Elric, pouvez-vous confirmer la dissolution de Civitas? Il me semble que Darmanin a acté ça aujourd'hui,
Oui,
Serge.
ça y est, c'est fait. C'est
Il me
fait.
semble que, ouais, il me semble que c'est en route. Donc on a parlé d'international. Attendez, je reprends le
Attends,
fil.
paf,
Bah toi,
paf, paf.
sélectionne-en une si tu le souhaites, hein.
Oui, attends, bah zut, je l'ai perdue, elle était bien.
Mais ça
Je
défile assez vite.
vais la retrouver. Alors voilà, pourquoi avez-vous le même discours que les médias mainstream, dire que la gauche se casse la gueule? À force de dire les gens vont le croire. Non, bah, la réalité, c'est que c'est vrai, mon monsieur. Moi, j'y peux rien. Hein. Ce n'est pas moi qui invente les échanges entre Fabien Roussel, Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas moi qui fais une liste. Une liste pour mon parti, je veux dire, comme le fait Marine Tondelier. Voilà, donc il y a une réalité qui s'impose à nous. Alors on peut dire, oui, mais on ne va pas en parler parce que ça affaiblit la gauche. Alors d'abord, je vais vous dire, ce n'est pas mon problème. Voilà, on va dire les choses très franchement. Moi, je suis journaliste. Donc les faits passent avant les sympathies que je peux avoir. Chacun sait d'où je viens, chacun sait ce que je pense, donc on ne va pas se cacher derrière le petit doigt. Ça, c'est clair. Mais les faits priment. Et si la gauche se casse la figure, je dis la gauche se casse la figure. Je ne vais pas inventer des elle se casse la figure, mais elle va se redresser, mais ça va aller mieux, mais on prie pour elle. Non, faut être réaliste. La NUPES est en train de se fracasser sur les récifs, là. Donc, et en plus, j'ai l'impression, pardon de vous le dire comme je le ressens, mais j'ai l'impression qu'il y a quatre personnalités qui sont vraiment les plus acharnées à détruire la NUPES, hein. Fabien Roussel, Marine Tondelier, Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon. On a l'impression que chaque jour, ils font ce qu'il faut pour casser cet outil qui a suscité un espoir formidable dans ce pays. Voilà. Parce qu'ils sont persuadés, les uns et les autres, que individuellement avec leur parti, ils feront mieux. Très bien.
Ok, alors n'hésitez pas à poser vos questions parce que ça papote, ça papote. Mais si vous avez des questions, ça nous arrange aussi. Quelles sont nos ambitions là sur Pure Politique, Serge, dans les prochaines semaines, les prochains mois?
Alors, nos ambitions sur Pure Politique. Tiens, il y a le Parti Socialiste qui m'écrit, pardon.
Je t'ai dévoilé.
Voilà. Non, je reçois tous les communiqués là pour vous expliquer. Toute la journée, je reçois tous les communiqués de l'ensemble des formations politiques françaises, ce qui fait que la boîte mail, au bout d'un moment, quand même, sature un petit peu. Nos ambitions, elles sont de deux ordres. D'abord, nous voulons vous proposer davantage de contenu. C'est le pari de cette année. Pour vous présenter davantage de contenu, il faut à minima un autre journaliste. Une autre journaliste, ce serait encore mieux parce que j'ai bien l'intention que cette chaîne reflète et la parité et la diversité de la société française, c'est-à-dire diversité dans les origines, diversité dans l'âge, diversité dans les milieux socioculturels et parité homme-femme. Voilà, ça, je veux dire que j'aimerais bien que cette chaîne, dans sa composition, cette rédaction dans sa composition, ressemble au métro à 6 heures du soir, pour reprendre l'expression que chérissait De Gaulle à propos du RPF en son temps. Voilà. Il disait, bah, être gaulliste, c'est le métro à 6 heures du soir. Nous, on n'est pas gaullistes, mais on a envie que la rédaction, à terme, ressemble au métro à 6 heures du soir. Voilà. Donc, ça veut dire donc au moins une embauche d'un ou une journaliste à plein temps qui, dans le cadre de la ligne éditoriale de la chaîne, mais avec sa personnalité, son talent et aussi ses envies, présentera, animera, réalisera des contenus. Ça, c'est la première chose. Mais pour faire ça, on a besoin aussi d'un local. Alors, tout le monde me dit, ah ouais, un local, mais vous avez besoin de bureaux. Ce n'est pas de bureaux dont on a besoin, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que c'est difficile, cette question du local. On a besoin d'un espace où on puisse installer de manière permanente nos caméras, les projecteurs, tout ce qui permet d'enregistrer des émissions ou faire venir des invités. Là, aujourd'hui, en gros, n'importe quelle émission, ça suppose que chez moi, je démonte la moitié de la maison et que j'installe les lumières. Alors, il y a des scotchs partout.
On a un avant-goût hein, derrière toi, d'ailleurs.
Voilà, c'est un bordel permanent, quoi. Et tout tient avec du fil de fer, du scotch, de la ficelle. Bon, ça marche, hein, l'illusion est là, le rendu est là. Mais si on avait quelque chose de plus simple où on puisse... simplement allumer la lumière, puis se mettre devant allumer les caméras et faire un record, on serait bien content. Voilà. Et ça permettrait surtout de partager le matériel, puisque le matériel est chez moi, mais on aimerait bien que le matériel il soit ailleurs et à la disposition de toute l'équipe. Voilà. Donc, c'est les deux objectifs de l'année.
Concrètement, Serge, pour une embauche, un troisième format, parce que notre objectif, c'est de proposer à minima trois formats par semaine. Qu'est-ce qu'on aimerait ? On aimerait quelque chose sur l'actualité, sur de l'éducation populaire, hein, c'est ça ?
Moi, j'aimerais bien que sur un certain nombre de questions, on ait une explication. Voilà, très souvent, je m'aperçois qu'il y a des concepts qui sont tout à coup agités à l'Assemblée nationale ou au Sénat d'ailleurs, ou même par le gouvernement, sur lesquels il y a une méconnaissance. D'ailleurs, l'inflation, la dette, la laïcité, la souveraineté, l'armée, la police, etc., la sécurité. Autrement dit, il y a besoin aussi d'un peu de pédagogie et de décryptage. Et moi, j'aimerais bien que quelqu'un vienne un peu faire ça, bien expliquer, quand on a débattu de ces histoires d'Abaya, que ça aurait été intéressant que j'ai dans l'équipe quelqu'un capable de faire l'histoire de la laïcité, la loi de 1905, celle de 2004, ce qui s'est passé après, comment ça, la commission Stasi, etc., etc. Voilà, par exemple, ce genre de choses. Mais on peut imaginer sur l'inflation, qu'est-ce que c'est l'inflation ? Pourquoi quels sont les types d'inflation qui existent ? Est-ce que l'inflation par les profits exagérée, l'inflation, la boucle salaire-prix, la hausse des matières énergétiques, tout ça joue un rôle. Donc, il y a une nécessité un peu de vulgariser un certain nombre de concepts qui sont utilisés parce que, pardon, et c'est normal, tout le monde n'est pas spécialiste de l'inflation, tout le monde n'est pas spécialiste de la dette de la France.
Donc on peut aller sur de l'économie.
On peut aller sur de l'économie, on peut aller sur de la science aussi, la filière l'hydrogène vert, voilà, moi j'aimerais bien que quelqu'un nous explique ce que c'est que l'hydrogène vert, est-ce qu'on peut équiper les voitures comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. C'est-à-dire que ça permet ensuite à chaque citoyen d'abord de s'emparer du débat public, du débat politique qui se tient à un moment donné, de le maîtriser, et ça lui permet de trancher, d'avoir une opinion, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Mais la question du nucléaire, est-ce qu'il faut arrêter le nucléaire, le relancer ? Par exemple, c'est un vrai débat entre les communistes et le reste des forces de la NUPES. C'est intéressant d'en parler, voilà. Et c'est ce genre de choses qu'on aimerait bien faire entre deux chroniques de l'actualité politique. On aimerait bien des choses un petit peu plus costauds et surtout plus pédagogiques. C'est-à-dire, on se pose 5 minutes et on a le temps d'expliquer un certain nombre de concepts qui sont utilisés en politique.
Par exemple, moi, j'ai une demande que je vois souvent sur nos commentaires ou les réseaux sociaux. Qu'est-ce que le Sénat ? Les gens comprennent rien en réalité au Sénat. Il y a très peu de choses. Et on pourrait expliquer ça à travers des formats sur les institutions et choses comme ça, quoi.
Mais je
et
pense
ça, c'est l'éducation populaire et c'est hyper intéressant de comprendre vraiment le fonctionnement du Parlement.
Je pense que c'est indispensable. Le Sénat, le mode d'élection du Sénat est déjà très pas très opaque, parce que ce n'est pas vrai, une fois
c'est
qu'on a compris.
Quoi.
Alors, c'est un suffrage indirect. Alors, c'est vrai que ça surprend les gens quand on dit, écoutez, vous savez quoi alors voilà, maintenant, ils ont été élus, mais on ne peut pas vous donner les résultats. Alors, les gens disent, mais... c'est quoi, c'est une république bananière ? Non, c'est tout simplement qu'ensuite, au Sénat, on se répartit dans différents groupes. C'est-à-dire au Sénat, quand on vote pour un sénateur, les grands électeurs votent davantage pour une personnalité que pour une étiquette politique. Et ensuite, ces sénateurs, une fois élus, vont se rattacher à des groupes. Et là, il y a des négociations pour aller dans tel groupe plutôt que dans tel autre. Voilà. Et ce qui fait que tout ça a pris une bonne semaine. Là, les résultats sont tombés. J'en dirai vraisemblablement demain, soit demain, soit lundi prochain sur les résultats définitifs. Mais c'est vrai que les gens se disent, mais ces types, ils sont payés à rien faire. Ils sont tous assez rebondis dans leur forme. Et en plus, on ne comprend pas comment ça marche. Et à quoi ça sert, puisque de toute manière, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Ben non, c'est pas complètement vrai, parce que ils interviennent dans la fabrication de la loi. Ils amendent les textes de loi, les projets de loi, les propositions de loi, et elles repartent comme ça à l'Assemblée. Puis il y a une navette parlementaire, il y a une commission mixte paritaire, on se met d'accord, il y a des apports du Sénat, donc ça joue un rôle important, voilà. Mais tout ça, il faut l'expliquer.
Tout à fait. Pour revenir un peu à la NUPES aux européennes, on a une question de HB qui demande par rapport aux jeunes NUPES, est-ce que les jeunes NUPES peuvent se présenter sans les vieux représentants qui se s'autodétruisent entre eux ? Est-ce que c'est possible, ça, une liste jeunes NUPES indépendante, entre guillemets, quoi ?
C'est un truc qui circule. Hein. Moi, je n'ai pas encore réussi à trouver quelqu'un qui me dise face caméra, ouais, on va le faire. Mais c'est possible, rien ne s'y oppose. Alors, on parle pour la tête de liste de cette liste jeune de Manon Aubry ou Benoît Hamon, qui sont déjà des vieux jeunes, hein, on va dire. Voilà. Mais je doute fort, voilà, on va se parler franchement, je doute fort que le Parti Socialiste, à ce moment-là, ne disent pas aux jeunes socialistes qui sont dans, j'allais dire, cette intersyndicale, mais oui, c'est un peu ça, quoi, c'est l'intersyndicale de la NUPES, ne disent pas aux jeunes socialistes, maintenant, n'oubliez pas que vous appartenez à une famille politique, il n'est pas question que vous fassiez une liste qui va se présenter contre la liste du Parti Socialiste. Ça va être le même son de cloche du côté des écologistes, voilà. Si cette liste, alors, quel sera le statut de cette liste ? Est-ce que ce sera la fameuse liste unioniste de LFI ? Apparemment, et ça risque de poser un problème, c'est-à-dire que et les Verts et les socialistes diront, écoutez les gars, c'est une manœuvre de la France insoumise pour nous forcer à l'union, et on a dit qu'on ne ferait pas, donc voilà, ceux qui sont sur cette liste, n'appartiennent plus à notre formation. Et ça, je pense que personne parmi les jeunes socialistes ou parmi les jeunes écologistes n'est prêt à prendre ce risque.
Merci Serge. Une question de Chris H73. Bonsoir Serge et à toute l'équipe. Salut. Serait-il possible d'interroger aussi plus souvent des gens de terrain, c'est-à-dire des maires, des conseillers municipaux ? Ils ont une vision plus réaliste de la politique.
Alors, ce serait dans l'absolu, je pense que ce serait bien de temps en temps d'aller voir des maires et des maires qui ont en plus souvent des choses à dire. Je suis d'accord avec. C'est pas une vision plus réaliste. C'est simplement qu'ils sont dans le concret. Ils sont les mains dans le cambouis, alors que les députés sont dans la fabrique de la loi. C'est chacun son rôle. Hein. C'est pas. Les députés ne flottent pas dans l'éther non plus. Ils ont été élus par des électeurs. Ils sont implantés dans leur circonscription, et ceux qui font leur boulot, quand ils ne sont pas à l'Assemblée, ils sont dans leur circonscription, et croyez-moi, ils sont vraiment au contact du terrain, parce que les permanences ne désemplissent pas, parce qu'on arrive et on leur apporte des dossiers, et on leur dit, écoutez, essayez de démêler cette histoire, essayez de m'aider. Donc ils passent leur temps à ça, il y a un boulot vraiment d'assistance sociale, qui est fait par les députés, qu'on oublie trop souvent. Donc, ils ne vivent pas à l'Assemblée nationale dans les palais dorés de la République. Ça, c'est une vision erronée. Mais, par ailleurs, je pense que de temps en temps, ce serait bien, il y a un certain nombre de maires qui ont des choses à dire, de maires ou d'autres élus locaux, et ce serait bien d'aller les voir, oui, effectivement. Et je pense que dans le cadre des entretiens qu'on a lancés, on va essayer peut-être d'aller les voir de temps en temps. En plus, ça nous fera une sortie.
Alors, concernant les entretiens, justement, on en parlait. Il y a quelqu'un qui demandait, et si, voilà, Pierre, une question de Pierre L, seriez-vous prêt à faire l'interview d'une personne comme Jordan Bardella ou Éric Zemmour? Sinon, si, non, pour quelle raison? Pensez-vous qu'eux-mêmes accepteraient une invitation venant de vous? Alors, la dernière question est la plus intéressante. Serge, je te laisse répondre.
Oui, mais encore une fois, moi je ne fais pas des entretiens en étant spectateur de mon invité. Voilà. Si j'invite les gens sur un plateau, ce n'est pas pour les piéger, mais c'est pour leur poser des questions que moi je me pose par rapport à ce qu'ils font ou par rapport à ce qu'ils disent. Donc si j'invite Jordan Bardella, pourquoi pas, je pense que je lui poserai quelques questions qui peut-être lui plairont pas, j'en sais rien. De toute manière, ce n'est pas mon objectif de lui plaire ou de ne pas lui plaire. Mon objectif, c'est de poser des questions qui permettent d'éclairer soit une stratégie, soit une pensée politique, soit une cohérence politique. Voilà. Et je pense que quand on reste sur ce terrain-là, autrement dit, le terrain du journalisme, c'est ça le journalisme. C'est pas de dire, ah, tiens, celui-là, je vais me le payer. Je vais... Non, ça n'a strictement aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est d'entendre une logique et de déceler dans cette logique les points de faiblesse, voire les contradictions, les abus de langage, les effets rhétoriques. Voilà, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Donc, ça veut dire une interview, ça se prépare. Voilà. Moi, je suis assez frappé. Parfois, je vois des confrères qui invitent Zemmour, Bardella ou d'autres et qui, visiblement, ils ont préparé ça à toute vitesse devant la machine à café, quoi. Non, un entretien, ça se prépare. Ça se prépare et on prend le temps de le préparer. Et quand l'invité vient, voilà, il a toutes ses chances, hein, l'invité. C'est pas un combat, mais il faut que cet entretien nourrisse une réflexion. Pour qu'il nourrisse une réflexion, faut rentrer dans les arguments de la personne qu'on invite, mais il faut rentrer dans ses arguments et puis ne pas hésiter à les démonter, à les décortiquer, à aller jusqu'au bout, à les pousser dans leurs extrémités pour mettre en avant ce qu'ils portent, ce qu'ils signifient. Voilà. Après, en face, faut accepter cette règle du jeu. Alors moi, je ne sais pas si Jordan Bardella ou même Marine Le Pen acceptera un jour de venir à Pure Politique. Je poserai la question, hein. Moi, je n'ai absolument aucun problème là-dessus. Mais pour moi, un entretien, la finalité d'un entretien, c'est d'alimenter une réflexion politique et d'alimenter la réflexion politique de ceux qui regardent cet entretien. Donc, il faut que cet entretien soit utile et montre quelque chose. Si c'est pour dire, ah bon, ah bah oui, ah bah mon bon monsieur, ah bah oui, c'est pas facile, bon, aucun intérêt.
Faut pas être complaisant, quoi. Jamais.
Alors, la
Jamais.
complaisance, c'est pas le style de la maison. Mais c'est pas l'agressivité. C'est-à-dire que beaucoup de confrères, allez, je vais être méchant avec les confrères là, mais beaucoup de confrères compensent une absence de préparation au travail par une agressivité redoublée face à un certain nombre d'interlocuteurs. Voilà, on montre qu'on est hargneux, qu'on est méchant, qu'on est bon. La démonstration qui en ressort à l'arrivée, c'est rien du tout, quoi. C'est oui, c'est des éclats, c'est du buzz, etc. Mais je suis pas persuadé que ça fasse avancer le schmilblick, voilà, comme on dit.
Merci Serge, j'ai une question éminemment importante de Lucas. Allez-vous continuer à mettre du métal en intro de vos vidéos?
Ben, j'aime bien, moi. Moi, j'aime bien. Hein.
Ah bah moi aussi.
Je suis bien. Moi, j'aime bien. Ouais, je suis un boomer, donc j'adore AC/DC, j'adore Led Zepp et tout. Voilà, donc j'aime bien
Mais puis
ça, quoi.
à chaque contenu, je lui dis, hein, allez, un petit peu de rock'n'roll, un
Voilà.
bon riff. Non, mais c'est vrai que c'est top en intro, moi j'adore et Serge aussi, donc je pense qu'on va continuer, oui, clairement. Une autre question de Tinkish Epitaph. Avez-vous déjà refusé de diffuser des éléments de com de certains politiques en sortie d'hémicycle quand vous savez que c'est factuellement faux?
Oh ben,
Bah tout le temps, hein.
oui, c'est-à-dire, quand je pense que c'est de la langue de bois, ça part direct à la poubelle. Moi, vous savez, c'est très simple, quand on est à l'Assemblée, on tourne tout. Donc, dès qu'on attrape un député par la manche, on tourne. Voilà. Et puis, quand je rentre, je mets tout ça sur ma table de montage et tout ce qui est inintéressant par la poubelle. Voilà. Même si c'est des éléments de com. Alors, des éléments de com, je mets un bémol, des éléments de com d'un parti ou d'un député peuvent avoir un intérêt dans la mesure où c'est la position officielle. Voilà. Chaque fois qu'il y a un point presse, on nous distille la position officielle du groupe. À moi, après, de dire, ouais, ils nous disent ça, mais c'est pas, c'est soit pas très conforme à la réalité, voire inexact, et ils nous disent ça parce que, c'est-à-dire, il faut que derrière, il y ait un décryptage. Mais si c'est, encore une fois, le journalisme, c'est pas passer les plats. C'est pas parce que quelqu'un me parle que je vais diffuser son propos. Et quand je trouve que c'est totalement vide, bah, ça part à la poubelle. Il y a beaucoup de choses qui partent à la poubelle, hein.
Et
La
puis, il faut
poubelle est
savoir que
pleine.
pour un Bourbon, bah, vous êtes à l'Assemblée, tu es à l'Assemblée quasiment toute la journée.
Ouais, on commence
Il y a deux
à.
sessions, quoi.
On commence à deux sessions.
Il y a deux sessions réparties sur la journée. Parce qu'il y a la pause du midi, quoi. Il y a le matin et
Ouais, mais ça
l'après-midi.
s'appelle pas une session, malheureuse. Séance, séance. Il n'y a
Séance.
qu'une session
Pardon, pardon.
il y a qu'une session chaque année. Et puis, il y a. Le matin, c'est-à-dire pourquoi on y est le mardi? Tout simplement parce que le mardi, c'est la réunion des groupes. Les groupes parlementaires, donc les députés, le matin, se réunissent. Chaque groupe, ils ont des salles dans lesquelles ils se réunissent. Et puis, ils adoptent une position commune sur des textes, sur des événements qui ont trait à la vie de leur parti, de leur formation. Mais c'est plus des questions parlementaires, hein, quand même. Les députés ne s'occupent pas trop du parti, mais bon, ça arrive. Donc, ils sortent du groupe. Nous, on connaît notre petit monde. On sait que certains vont nous raconter en off le déroulé de la réunion. Alors, donc, on va voir ceux qui nous parlent en off, c'est-à-dire en off, ça veut dire qu'on n'enregistre rien, la caméra est éteinte, le micro est éteint, et on prend des notes et il nous explique un certain nombre de choses, et on ne cite pas la personne qui nous parle. Voilà. Mais on arrive quand même à avoir l'essentiel de la réunion de chaque groupe parlementaire. Voilà. Et quand on n'y arrive pas, on passe un petit coup de fil en rentrant à la maison et tiens, salut, qu'est-ce que vous avez dit au groupe? Qu'est-ce qui s'est dit? Et comment il a réagi? Bon, voilà. C'est le boulot classique d'un journaliste politique, hein. Y a rien d'ultra secret, hein, d'ailleurs. Simplement, quand il y a des divergences au sein d'un groupe parlementaire, c'est vrai que celui qui est un peu en désaccord, a pas forcément envie de se signaler à l'opinion en disant bah, je suis en désaccord avec mon groupe, parce que dans tout groupe humain, à moins que ce soit des robots ou des Playmobil, il y a forcément des divergences. Hein. À Renaissance, il y a tout le temps des divergences. Hein. Ne rêvez pas. Au Modem, c'est pareil. À France Insoumise, c'est pareil. Le Parti Socialiste, c'est pareil. Voilà, chez les Verts aussi. Donc, selon la personne à laquelle on s'adresse, bien sûr, on a des éclairages différents. Et avec tout ça, on vous fait des bourbons.
Question de Elisa Wasabi qui nous dit: J'aime bien les shorts en extérieur, merci. Est-ce que vous allez continuer
Les
les shorts
shorts
les shorts en extérieur, non pas l'habit, mais le format
en.
vidéo de 60 secondes maximum? Parce que là, on se met encore en short, hein, en mois d'octobre, mais il fait chaud. Hein.
Oui, bien sûr. Encore faut-il qu'on ait juste l'occasion de le faire. Alors, le short, c'est une petite analyse à chaud d'un événement politique. Notre philosophie avec Maxime, c'est de dire. Des fois, on a un bourbon, mais il vient 2 jours plus tard, ou on a un Pôle Express, mais qui vient après le week-end, et on se dit, tout ça va sentir un peu le réchauffé, et ça peut être bien, on a peut-être quelque chose à dire, deux, trois phrases de commentaires sur ce qui vient de se passer. Donc, on essaye de faire des choses à chaud, et on essaye de les faire en situation. Donc, c'est pour ça que vous me voyez, soit salle des quatre colonnes, soit quand il fait beau dans le jardin de l'Assemblée, ou vous m'avez vu. Pendant les amphis de la France insoumise, je crois qu'on en a fait à la fête de l'UMA, je sais plus.
Fête
Enfin,
de l'UMA, on en a
l'idée,
fait deux. Il y avait notamment
voilà.
dans Ségolène Royal, c'était pas la fête de l'UMA, c'était aux amphis.
C'était aux amphis, ouais.
Mais oui, on a fait quelques-uns en sortie de l'été là.
Oui, non, mais on a bien l'intention de continuer et d'amplifier le mouvement, voilà.
Et puis c'est un format qui est très agréable à travailler parce qu'on peut répondre à l'actualité sans avoir des heures et des heures de montage, et ça permet de combler avec un format qui est quand même rapide à sortir, quoi. Et c'est très agréable parce qu'on le décline aussi sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Donc oui, on aimerait continuer. En fait, on aimerait en faire plus. On aimerait accéder au maximum. Si on a une nouvelle personne qui fait d'autres contenus, on peut aussi faire des shorts en extérieur. Il y a une manif à Paris, il y a un truc sur le terrain. Clairement, moi, bon, c'est mon cœur de métier, mais je trouve que les shorts, c'est une super possibilité pour traiter de l'actualité. Donc oui, on va essayer de mettre le paquet dessus. Enfin, en tout cas, on s'y engage. Question de Kalel Patou. Ne craignez-vous pas qu'un jour votre format d'information politique soit réprimé par les dirigeants, voire interdit?
Ouais, mais à ce moment-là, je pense que je ne serai pas le seul. On sera tous dans une mauvaise situation si ce cas de figure se produisait. Non, pour l'instant, je pense pas. Alors, il règne un mauvais climat en ce moment. C'est-à-dire les magistrats, certains magistrats sont en train de prendre de mauvaises habitudes avec les journalistes. Je pense à ma consoeur de Disclose. Je pense, ce sont trois journalistes de Libé qui ont été également poursuivis parce qu'ils avaient, je me souviens plus pourquoi ils étaient exactement poursuivis. Pardon, ça me revient pas en mémoire à l'instant. Mais il y a un certain nombre de confrères qui aujourd'hui sont questionnés en garde à vue auprès de la DGSI. Ça pose un problème. Ça pose un problème sur la liberté d'informer. Et ça, je pense que cette dérive a commencé avec la loi qu'avait fait voter Emmanuel Macron à peine arrivé lors du premier mandat, la loi sur le secret des affaires, qui est un moyen assez pernicieux de réprimer l'enquête, l'investigation, les révélations. Et puis, dans le cas de ma consoeur de Disclose, c'est l'atteinte à la sécurité nationale. Pardon, mais je pense qu'elle a fait son métier et que cette consoeur mérite tout notre soutien et fait honneur à la profession. Voilà. Je pense qu'il faut continuer. Alors, il y en aura d'autres, hein, des perquisitions, des saisies de matériel. Il y a beaucoup d'intimidation autour de ça, voilà.
Merci Serge. Alors une question de Laurent Gardy. N'hésitez pas, on est toujours en direct sur YouTube. On va rester avec vous encore une petite demi-heure, je pense. Vos questions sur le chat, on essaie d'y répondre au maximum. Question de Laurent Gardy. Est-ce que le vieux routard qu'est Serge apprécie de faire du journalisme sur Internet? Et selon lui, est-ce que ça apporte quelque chose en plus?
Oh ben oui. Alors, le vieux routard, c'est marrant ça. Je suis un vieux routard du journalisme. Non, je retiens l'expression parce qu'elle me plaît bien. Elle me plaît bien. Oui, moi j'ai commencé à une époque où il n'y avait ni Internet ni ordinateur. Donc vous voyez, je viens de la préhistoire, à peine juste après la préhistoire. Hein, voilà. Donc moi je trouve que la technologie peut nous libérer ou en tout cas peut nous donner accès. Moi, j'ai toujours rêvé d'un média comme Internet. Moi, je travaille dans la presse magazine, je travaille à l'événement du jeudi. Certains d'entre vous le savent, me suivent d'ailleurs depuis cette époque, mais c'était un hebdomadaire sur du papier. Ça sortait donc par définition toutes les semaines. Et notre grande frustration, c'était de dire, ben, merde, on a une information, on ne peut pas la sortir tout de suite. Internet permet une fluidité, de réagir en direct, voilà. Donc, et puis c'est un média extrêmement souple. Ouais, je veux dire, aujourd'hui, une caméra, ça pèse 2 kilos, 2,5 kilos, et on peut quasiment s'en servir comme un bloc-notes. Et c'est plus des caméras d'il y a encore 10 ans. Je pense que dans 10 ans, on aura encore des technologies encore plus souples, encore plus agiles. Donc, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, ça suppose de s'adapter, de trouver les codes, d'apprendre des codes. YouTube, il y a des codes. Alors, c'est vrai, ben, je les ai appris comme tout le monde. Mais enfin, je n'ai pas eu à me forcer en plus, parce que je suis consommateur de YouTube. Moi, je pense que je ne consomme quasiment plus de télé. Je fais partie de ces gens comme vous. Qu'on range dans la catégorie consommation délinéarisée des chaînes mainstream, quoi. Je regarde très peu la télé en direct. C'est vraiment si quand il y a un match au rugby, quoi, voilà. Parce que mon écran télé est meilleur que mon écran d'ordinateur, mais c'est à peu près le seul moment. Donc oui, moi j'aime bien YouTube, j'aime bien, et je pense qu'il y aura d'autres médias qui vont émerger, d'autres réseaux. Voilà, sur Instagram, on est en train de, on fait nos premiers pas avec Maxime, et je pense qu'on va explorer toutes les possibilités de ce
Ouais,
média.
ça fait écho avec les shorts dont on parlait. D'ailleurs, on a une question, bon, c'était pour moi, mais tu vas y répondre. Quel est mon rôle, Serge, autre que la FAQ à pure politique?
Enfin, je sais pas, présente ton rôle.
Non, moi, donc, je suis journaliste éditeur. En fait, c'est moi qui diffuse tous les contenus que vous voyez sur Pure Politique et donc sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc, quand il y a un contenu, bah, avec Serge, on définit le titre. Par exemple, c'est moi qui fais la vignette, la miniature. Je fais le script, les sous-titres. Je vérifie chaque contenu, si c'est cohérent, s'il n'y a pas des fautes, s'il n'y a pas des erreurs. Alors, une erreur arrive parce qu'en fin de journée, on est en rush. Ça peut arriver qu'on s'en excuse, mais à chaque fois, c'est vérifié. On essaie de tout corriger. Et je suis là au quotidien avec vous, avec la communauté. Pareil, hein, on ne l'a pas dit, Serge, enfin, on ne l'a pas répété, mais quand n'importe quel don à Pure Politique donne accès à un serveur Discord, un canal Telegram et à une newsletter hebdomadaire qu'on envoie le vendredi en fin de journée, c'est moi qui fais la newsletter qui m'occupe de tout ça. Donc, c'est
Et
tous
dans
les
laquelle je fais
petits.
un petit éditorial.
C'est l'édito de Serge, exactement.
Voilà.
Chaque semaine,
C'est
le vendredi
original.
soir, il revient un petit peu sur l'actu. Donc, j'édite tout simplement Pure Politique, quoi. Voilà.
Eh ben on peut en profiter pour faire le tour de l'équipe.
Oui, bien sûr.
Donc pendant longtemps, il y avait Laetitia Lallemand qui était à la caméra. Elle venait de la PQR, donc elle a préféré retourner dans la PQR, qui était plutôt son univers, et apparemment elle s'y épanouit, donc on est très content et on conserve les meilleures relations du monde, hein,
Bisous
je vous
Laetitia,
rassure.
si tu nous regardes.
Voilà. Donc on a Benjamin Danan qui l'a remplacé, qui est un JRI, enfin pardon, il n'est pas encore JRI, vous allez comprendre, même si vous
C'est quoi un
voyez sous,
JRI? Parce
un
que
journaliste reporter d'images, voilà. Et vous voyez souvent ces images. Alors lui, il travaille entre autres pour BFM. Donc là, vous avez vu ces images au Maroc. Récemment, il est parti en Arménie. Donc il voyage, il bouge, il fait de très très belles images. Moi, je suis très content du côté déchets. Et en plus, on s'entend bien. Voilà, c'est vrai qu'entre un rédacteur et un Et celui qui est à la caméra, c'est important d'être en phase. Bon, en plus, on s'entend d'autant mieux que moi, je manie aussi la caméra, comme vous le savez, puisque vous voyez souvent mes images dans les manifs ou même dans d'autres circonstances. Donc, finalement, on parle le même langage et le fait de maîtriser la caméra, le fait de faire du montage, je sais vraiment ce que je veux. Comme image, voilà. Donc on perd pas de temps, on se disperse pas, et ça permet de bosser de manière efficace et pas avec des doutes dans la tête et ah ben non, fais ci, fais ça, non, ben voilà. Bon, et en plus ça fonctionne bien. Lui, il a au-delà de l'intérêt pour la caméra, il y a une adhésion au projet de pure politique, voilà. Donc c'est bien. Alors le problème, c'est que bien sûr. Il part,
Ce serait
il
trop
part,
facile, Serge.
ça va être trop facile. Il part pendant 4 mois faire une formation au centre de perfectionnement des journalistes pour avoir la qualification de journaliste reporter d'image. Et donc, vous découvrirez une nouvelle JRI qui m'accompagne. Vous découvrirez ces images jeudi, Léonie, qui va le remplacer le temps qu'il se forme au CFPJ. Et il reviendra donc fin février. Voilà. Et Léonie le remplace. Léonie bosse aussi pour BFM, pour TF1, etc. Donc ce sont des professionnels quand même avec un joli palmarès. Et voilà, donc on permet d'aller vite, ça permet d'être efficace.
Une question de KP, Serge. Quels sont les formats que vous affectionnez le plus de réaliser? Est-ce que tu as une préférence?
Ouais, moi j'aime bien le bourbon parce que c'est parce que je sais pas, c'est peut-être parce que c'est le premier, c'est on me connaît surtout à travers le bourbon quand des gens me reconnaissent dans la rue, ils me disent ah ben vous c'est vous le gars du bourbon, alors ils savent plus si c'est le petit coup de bourbon, un bourbon sinon rien, ou bourbon de Serge, mais c'est le gars du bourbon, voilà. Et quand on me présente quelque part, ah ben tu connais pas, c'est le gars du bourbon, voilà. Donc je suis le gars du bourbon. Mais j'aime bien, voilà, j'aimerais bien enrichir un peu, je réfléchis aux possibilités de rafraîchir un peu le format, peut-être de le dynamiser. Encore que, j'ai un donateur qui s'appelle Sébastien qui nous a écrit, qui nous a mis un petit commentaire. Alors, il dit deux choses. Il dit, du point de vue technique, merci pour votre ton et diction plus posé en cette rentrée. Alors,
Ah bon?
apparemment, lui a l'impression que je parle un petit peu plus lentement en cette rentrée. Alors, j'ai réfléchi, mais ça m'a troublé. Je n'ai pas l'impression d'avoir changé mon débit. Mais
Bah, dites-le nous dans les commentaires là sur le chat si vous,
Je sais ce que
vous
j'ai
êtes d'accord.
changé. En revanche, j'ai changé quelque chose. C'est que j'ai un peu renoncé à ce qu'on appelle le montage YouTube, c'est-à-dire les trucs cut. Derrière chaque phrase, on coupe et il n'y a plus de silence dans la phrase. Or, c'est une élocution qui n'existe pas. Quand on parle, quand on parle tous avec nos amis ou simplement quand on va boire un café, ben on parle, il y a un début de la phrase, une fin de la phrase, puis il y a un silence, une respiration, puis il y a une autre phrase. Et j'essaye maintenant dans le montage de réintroduire un peu du silence, des moments de silence, ce qui permet d'ailleurs de mettre en exergue d'une certaine manière des moments importants de la chronique, voilà. Plutôt que de faire des montages cut, là vraiment on enlève une seconde, deux secondes. Alors ce côté haché finalement, qui est propre à YouTube, je trouve donne à l'arrivée un truc qui est finalement insupportable parce qu'on se prend un train d'informations en 10 minutes et après on se dit mais qu'est-ce qu'il a dit? Bon,
Pas de
voilà.
respiration,
Il n'y a pas de respiration, donc j'essaye de faire que ce soit plus naturel. Donc ça, je l'ai changé et c'est peut-être ça qui fait que il a le sentiment que c'est plus posé. Alors, il fait une remarque que beaucoup de gens me font. Il dit, il reste la différence du volume du son du jingle par rapport au reste de la vidéo qui est insupportable. Alors, moi, je suis d'accord avec vous, mais je l'ai déjà pourtant baissé. D'ailleurs, qu'en général,
Le
le
jingle,
son,
c'est quoi, le teaser ou le générique?
le générique qui, effectivement, réveillerait les morts dans leur cercueil. Bon, pourtant, chaque fois, j'enlève 7, 8 décibels, machin, mais visiblement, c'est pas assez. Donc, je prends une bonne note du message, on va descendre un peu plus
Ou
le.
alors, on a besoin de sous pour un ingénieur du son.
Ah ouais, alors ça,
Ça,
franchement,
c'est pas mal.
s'il y a un poste à pourvoir, ou en tout cas,
Par exemple, pour Alexis Corbière, ça aurait été salvateur.
voilà, un prestataire. Ouais, parce que franchement, là, sur Alexis Corbière, on était avec trois caméras, trois sons qu'on synchronise. Voilà, et ensuite, le mixage, parfois, c'est un peu pénible, quoi. C'est-à-dire que, surtout quand les voix se chevauchent, c'est-à-dire quand Corbière parle et que je parle, et comme on ne veut pas que ce soit de la bouillie de chat, donc on est obligé de monter le son de l'un par rapport à l'autre, puis il y a un moment, voilà, enfin, c'est un truc, c'est au millimètre, et franchement, je ne suis pas le roi du mixage, quoi. Enfin, je sais mixer sur un sujet normal, mais dès que ça devient quand même costaud, il y a un moment où faut dire, ben là, ma compétence est un petit peu insuffisante, en tout cas, elle limite. Et c'est vrai que c'est un des postes qu'il faudra envisager, en tout cas, d'avoir au moins sur un certain nombre de formats un peu longs et un peu sophistiqués, et d'avoir quelqu'un qui vienne faire le mix proprement, quoi. Voilà. Parce que nous, on le fait à l'oreille, alors ça
Voilà.
va, quoi. Sur un bourbon normal, à l'oreille, ça marche. Qu'on a deux voix, plus le bruit qu'il y avait dans le café, plus on veut garder un peu d'ambiance, enfin voilà, donc il faut arriver à mettre un peu de tout, quoi, voilà.
Oui, parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, Serge, c'est toi qui fais le montage, c'est toi qui fais le
Ouais.
mixage. On n'a pas de monteur. C'est pareil pour le Bourbon. On
Et je
aimerait
fais le
faire ce
café
qu'on...
aussi.
Et tu fais le café très bien. On aimerait faire ce qu'on appelle des inserts ou des illustrations, tu vois, sur des Bourbons, des choses, des extraits, des choses un petit peu drôles. Parce que c'est vrai que des fois, on parle du ton pinailleur parce que tu fais de l'humour, hein, tu fais des blagues et c'est rigolo. Moi, je suis premier, je suis bon public par rapport à ça. Mais on aimerait effectivement dynamiser avec quelques inserts et bon, ça viendra à l'avenir, hein, je l'espère. Il y avait une question de Titoupa. N'hésitez pas encore à poser vos questions, on est avec vous encore un bon quart d'heure. Y aurait-il de la place pour une chronique pire politique pour compiler le pire des déclarations et actes politiques? Ça, c'est une très bonne idée.
Le titre est bien, hein?
Ouais,
Le
tu
titre
vois
me
bien la
plaît.
petite chronique pire
Alors,
politique. Ça, c'est
le
pas
titre
mal.
me plaît. Oui, mais en général, ce truc-là, enfin, c'est repris par les chaînes info tout de suite, quoi. C'est quasiment en direct. D'ailleurs, si je fais la compile de toutes les conneries qui ont pu être prononcées dans un débat, bon, alors, il y en a quelques. D'abord, je ne les vois pas toutes, hein. Il y en a quelques-unes que je mets de côté, que je restitue dans le Bourbon. En faire une chronique à part, c'est un peu compliqué. Voilà. Enfin, c'est-à-dire, faudrait qu'il y ait quelqu'un vraiment qui se charge de ça et surtout
Ah
le
oui.
faire à chaud, quoi, de faire à
Ah oui.
chaud.
Là, en fait, ce qui prend beaucoup de temps, c'est prendre tous les extraits, les cuts, en faire un montage, quelque chose de bien dynamique. Mais oui, ce serait rigolo. C'est comme un zapping. Enfin, c'est un zapping, mais du pire, quoi.
Alors, il y a quelqu'un
Ce
qui
serait...
me dit,
Oui.
une petite remarque sur Alexis Corbière. Le plus dur, c'est l'image, les différences de colorimétrie de cam à cam. Alors, bah, on va vous révéler le grand secret, messieurs, dames. Il y a deux caméras qui sont des caméras Panasonic. Panasonic est bien connue pour sa qualité, justement, de colorimétrie. Donc, ces deux caméras n'ont posé aucun problème. Voilà, donc c'est la même colorimétrie, on fait le même réglage et ça va bien. Bon, il y avait une petite différence de lumière, c'est-à-dire que les lumières qui étaient sur moi étaient plus dures, ce qui fait que les ombres étaient plus marquées que sur Alexis Corbière et on s'est dit qu'il manquait tout simplement sur nos projecteurs que vous voyez là, derrière, c'est des LED, il manque ce qu'on appelle des petits volets qui permettent de diriger un peu mieux la lumière. C'est un achat qu'on a programmé. Et puis le plan général, me direz-vous, qui est assez moche, enfin pas le plan, mais la colorimétrie du plan général, ben, c'est fait à l'iPhone, voilà, parce qu'on n'a pas de troisième caméra, on envisage d'en acheter une troisième, mais ça coûte pas un bras, mais enfin, ça coûte, oui, ça coûte presque un bras quand même, voilà. Donc on a fait
Demi-bras.
ça, un demi-bras, voilà. Donc on a fait ça à l'iPhone. Et ouais, c'est un peu dégueulasse, voilà, parce que l'iPhone, on ne peut pas rattraper. Il y a des couleurs qu'on ne peut pas rattraper, quoi. C'est-à-dire, on filme en 4K et tout à coup, on fait un truc en 1080 à l'iPhone. Hein, ça fait des gros pixels un peu baveux, plus la colorimétrie de l'iPhone. Et pourtant, c'était l'iPhone de Benjamin qui est un peu plus évolué que le mien. Moi, j'ai un iPhone 7, alors autant vous dire que, hein, bon, voilà. Parce qu'on avait prévu au départ une petite caméra GoPro, et la caméra GoPro, naturellement, nous a laissé en rade au dernier moment. Sinon, c'est pas marrant de faire un tournage. Donc, on s'est dit, le plan général, qu'on peut le faire. Et heureusement, Benjamin avait son formidable iPhone, mais enfin, le meilleur iPhone de la Terre ne peut donner que ce qu'il peut donner. Voilà. Donc, la colorimétrie était dégueulasse sur l'image centrale, je suis d'accord.
Bon, il y a une question qui revient souvent. Qu'est-ce qu'on pense du média qui va à la télé
Bah,
sur une box internet?
il va
Mais
pas à
le
la
truc, c'est qu'il
mais
va pas à la
il
télé.
va il va pas à la télé sur une box. Alors pardon hein, mais je pense que à l'époque je sais pas, c'est des choix du média et pour moi c'est l'histoire ancienne donc voilà je suis passé aux médias, ça a beaucoup changé depuis que j'y suis passé donc j'ai pas de leçons à leur donner, ils vivent leur vie, je vis ma vie et tout va bien voilà. Mais simplement sur cette question précise d'aller à la télé, ils vont pas à la télé, ils vont sur une box, la Freebox si j'ai bien compris, ils vont sur un canal entre je sais pas quoi, ça doit être
C'est
Télé
300 et
Mont-Blanc.
quelques.
Ouais, ça veut dire Télé Mont-Blanc et Télé Kurdistan. Ou, enfin bon, voilà. Je vois pas ce que ça change. Je vois pas ce que ça change à une époque où tout le monde va sur YouTube. C'est-à-dire que les gens qui regardaient la télé vont sur YouTube. Voilà. La démarche me surprend, c'est-à-dire c'est cette fascination pour la télé,
Alors que à la base, c'était un média
alors
très.
que tout le monde s'en va de la télé, tout le monde quitte la télé, quoi. C'est un truc, voilà. Mais ils ont peut-être raison, j'en sais rien. Moi, j'irai pas. Voilà, je me fous d'être sur une box.
Puis à mon avis, les audiences sont absolument négligeables. Hein.
Ben, je pense pas que ça aidera la chaîne d'être sur une box. Si vous voulez, nous à quoi on réfléchit par exemple aujourd'hui, c'est plutôt sur notre capacité à faire des directs. C'est-à-dire qu'on aimerait bien acquérir ce qu'on appelle, alors je vais faire un tout petit peu de technique, mais vous allez voir, ça va être super rapide. Souvent dans les manifestations, mais même dans les meetings, les conférences, les événements, vous voyez des journalistes télé avec un petit sac à dos, avec un machin derrière dans leur dos, avec des petites lumières, avec ça clignote, etc. Et vous vous dites, bon, c'est quoi ce mutant? Alors ce qu'ils ont dans le dos, en général, c'est un encodeur, décodeur qu'on appelle un AVI West. Il y a plusieurs marques, AVI West, TVU, LiveU. En gros, c'est un système qui, avec plusieurs cartes SIM, permet d'encoder les images de la caméra et les transmet en temps réel à une régie finale qui les diffuse en direct. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous me direz, mon gars, il y a un iPhone, tu es dans une manif, prends ton iPhone et envoie des images. Sauf que ça marche pas comme ça, parce que tout le monde a un iPhone dans les manifs, et dès, vous le savez sûrement par expérience, dans un concert, dans un rassemblement où il y a beaucoup de gens, il y a un moment donné où la bande passante disponible, elle n'est pas extensible à l'infini, et il y a un moment où ça sature, vous n'avez plus de réseau. Et nous, on avait chez mon employeur, mon ancien employeur, on avait fait l'expérience à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'on commençait un live, hein, machin, bienvenue, on est là dans la manif, on est avec des gens et tout. Et puis je me suis retrouvé comme ça une fois en train de parler tout seul pendant 1 heure dans la rue en pensant qu'il y avait des tas de gens qui
Oui,
regardaient,
oui, oui.
et la connexion avait complètement décroché. Bon, donc ces petits sacs à dos, avec ce petit système d'encodeur-décodeur, permettent de transmettre quelles que soient les conditions. C'est ça qui est formidable.
Et
C'est-à-dire que.
concrètement, Serge, ce qu'on propose, c'est quand il y a une manif, on fait un live, quoi.
Voilà. Moi, c'est ça que je veux faire. Mais une manif ou autre chose, ou un meeting intéressant, une réunion intéressante. Par exemple, moi, je ne sais pas, il va y avoir des rencontres de la NUPES, comme lorsque, à l'été dernier, pas celui qui vient, celui de l'année précédente, la négociation s'était faite. On avait passé des nuits devant le local de la France Insoumise où se tenaient des négociations. J'aurais bien aimé faire des directs, voilà, dire, voilà, on est devant. Ce qui se passe, pas des directs pour juste dire on est là, des directs avec des infos, on avait des infos, voilà. Donc essayer de faire que Pure Politique soit à certains moments très très dans le hot news, voilà.
Alors juste, je voudrais rebondir parce que il y
Mais ça
a.
coûte de l'argent, c'est ça. Toujours le même truc, c'est quoi un AVI West à l'achat plus l'abonnement plus les cartes,
1500 denis à
etc.
chaque fois, je crois, non?
Ah non, mais t'as la loc, mais c'est plus intéressant de l'acheter, parce que si tu le loues, on termine tous sans bras et sans jambes à la fin de l'année, quoi. Hein?
Il y avait une remarque de Barbier sur le chat. Serge, beaucoup de seniors restent sur la télé. Alors oui. Complètement d'accord. Les seniors, les plus de 50, plus de 60 ans, regardent encore massivement la télé. C'est très majoritaire chez eux. Sauf que, attention, parce que pour le média, on ne parle pas de la télé. On parle d'un canal 300 et quelques sur une box. Ça n'a rien à voir avec la TNT. La télé, bon, ils ont choisi leur communication là-dessus. Très bien, ça les regarde. Mais voilà, pas vraiment la télévision. C'est juste un canal web sur une box. Hein. Mais je suis d'accord qu'il y a encore beaucoup de seniors qui regardent sur la télé. D'ailleurs, je pense franchement que ça explique l'écart dans l'électorat, notamment à gauche, sur les plus de 60 ans et les jeunes qui sont informés plus sur YouTube. Ça doit jouer beaucoup.
Non, mais moi, je leur souhaite bonne chance. Hein. Personnellement, j'y crois pas beaucoup. Mais ils ont peut-être raison, j'en sais rien.
Ah bah oui, parce que c'est.
En plus, on va voir le résultat de l'expérience. Et ils ont peut-être raison. Ils sont peut-être précurseurs, pionniers. Tant mieux. Hein. Voilà, moi, Chacun fait ce qu'il pense être le mieux pour sa chaîne, cherche des développements, des nouveautés, cherche à toucher le plus grand monde. S'ils pensent qu'ils vont augmenter leur audience comme ça, tant mieux pour eux.
Une question concernant Pure Politique et les dons, notamment de Raphaël. Bonjour, comment ça se passe pour avoir des attestations pour nos dons? Donc, je pense qu'il veut parler de revenus fiscaux. J'ai déjà essayé le contact avec DonorBox, mais ce n'est pas eux qui gèrent, merci.
Alors, si, DonorBox, c'est la plateforme. Et c'est la plateforme. Moi, je suis adhérent de l'association en tant que Pure Politique. Hein. J'aime l'info. J'aime l'info, c'est une association qui fédère la plupart des médias indépendants ou dits indépendants et qui a été créé par le SPIL, qui est le principal syndicat des éditeurs indépendants, Mediapart, Basta, Reporter, Le Média, Blast, Pure Politique, et un tas de médias. Bon, J'aime l'info a décidé d'utiliser la plateforme DonorBox. Avant, ils utilisaient OKPAL, je crois. Voilà. Et normalement, chaque fois que vous faites un don, il y a immédiatement une attestation fiscale qui part. Voilà. Donc, je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas partie. À ce moment-là, je propose à la personne de m'écrire un petit mail et je vais voir de quoi il retourne. Moi,
Facebook ou sur Instagram, il ne faut pas hésiter. Hein. On peut faire du SAV dessus, Pure Politique sur Facebook.
Allez-y, vérifiez surtout que vous avez bien reçu, d'abord que vous avez bien renseigné votre mail, ça c'est important, parce que s'il y a une erreur dans le mail, on ne reçoit pas l'attestation, ça c'est un peu emmerdant. Et puis deuxièmement, que ce ne soit pas parti dans les indésirables, hein, c'est possible aussi. Voilà, ça c'est. Moi j'ai plein de trucs importants qui partent régulièrement dans les indésirables, donc jetez un œil, voilà. Et puis, si franchement, il n'y a rien, envoyez-nous un petit mot. Et puis, moi, je ferai suivre la personne qui gère J'aime l'info en lui disant, il y a eu un petit bug. Mais oui. Normalement, il n'y a pas de bug, hein, franchement.
C'est vrai que c'est assez rare qu'on ait des soucis de ce genre. Mais n'hésitez pas à envoyer un message sur Facebook. On peut voir, effectivement, on trouvera une solution. Une question.
Alors, il y a quelqu'un qui me dit, vous oubliez de dire que le média espère que ce n'est qu'une première étape, ils espèrent arriver ensuite sur les autres box et peut-être un jour sur la TNT. Ouais. Oui, très bien. Pas, très bien. Moi, ça ne me pose aucun problème. Hein.
Puis dans le pluralisme, ça ferait du bien, hein, très franchement. Hein, on n'est pas du tout aigri ou quoi que ce soit, bonne chance à eux. Hein. D'ailleurs, concernant les médias indépendants, et on va continuer un petit peu dessus. Abel, comment vivez-vous, une question de Abel, comment vivez-vous la concurrence entre médias indépendants? Quelle ambiance y a-t-il dans le milieu, Serge?
L'ambiance, elle est pas bonne parce que disons d'abord il y a
elle est exécrable hein, même.
Oui, voilà, on peut le dire. On peut le dire, mais ce qui ne m'empêche pas, moi, de continuer à avoir des gens que j'estime et que je salue aux médias, à Blast, puisqu'il faut le nommer. Voilà, puis il y a des gens avec qui, franchement, il y a des contentieux, d'abord. Puis il y a des histoires qui ont fait que on n'est pas d'accord. Et puis la ligne éditoriale n'est pas la même. Enfin, je veux dire, j'espère que vous l'avez remarqué. La ligne de Pure Politique n'est pas tout à fait, ou même est assez différente des deux médias que je viens de nommer et d'autres. Voilà. Si aujourd'hui nous faisons un média, c'est pas pour dire on fait comme les autres, on fait un média. Non, on fait un média parce qu'on pense que ce que font les autres ne nous satisfait pas par rapport à ce qu'on croit nécessaire aujourd'hui. Voilà. Nous, on croit beaucoup à un média de décryptage, un média d'éducation populaire, un média pédagogique, un média sans langue de bois, un média qui soit engagé mais pas partisan, et un média qui fait passer les faits avant les discours militants. Voilà. Et nous, on n'a pas de discours militant, on n'a rien à vendre. Hein. Franchement, on n'a pas de carte d'un quelconque parti à vendre. Et je ne suis pas là pour vendre les mérites de telle ou telle organisation politique. Ce qui nous intéresse, c'est que les gens pensent par eux-mêmes, se déterminent et en toute connaissance de cause. Voilà, c'est le pari qu'on fait. On fait le pari sur l'intelligence.
On essaie de relancer le débat démocratique, en fait. Vous l'avez remarqué, les gens ne
Voilà.
discutent plus, chacun
Voilà.
campe sur ses positions, on essaie d'imposer les idées aux autres. Voilà, bon, Serge vient de gauche, moi aussi, mais ce n'est pas pour autant que, on aimerait quand même faire un entretien avec une personnalité d'extrême droite et lui poser des questions pour renouer un petit peu, parce que la dédiabolisation vient du fait que dès que vous avez une personnalité d'extrême droite, elle se retrouve sur CNews ou sur Europe 1, donc c'est Bolloré, et c'est des médias qui sont hyper complaisants. Et la même personnalité dans un média, on va dire, de gauche, ben, elle n'aura pas les mêmes questions et vous la percevrez, je pense, différemment. Mais en fait, c'est juste la personnalité politique qui doit se débrouiller et avoir certaines compétences pour vivre dans le jeu politique du moment. Donc, pure politique, c'est ça. On aimerait relancer le débat démocratique. Enfin, Serge, je pense que tu es d'accord avec moi.
Oui, moi je crois profondément, enfin, il y a deux façons de s'adresser aux gens. Soit on leur dit, j'ai la vérité révélée, suivez-moi, j'ai raison, et vous allez voir, demain, les lendemains fleuriront, ce sera formidable, etc. Bon, c'est pas notre tasse de thé, ça. Voilà. Nous, on fait le pari d'intelligence. On pense que les gens, quand on leur donne les éléments pour se déterminer, ils se déterminent dans un sens ou dans l'autre. Je me moque complètement de savoir ce que les gens font après avoir regardé les chroniques que nous diffusons. Je ne cherche pas à convaincre. Et je ne sais pas de quoi je voudrais les convaincre. Je cherche à ce qu'ils se forment comment dire, un avis éclairé. Voilà. L'idée, c'est qu'on est un peu des éclaireurs du débat démocratique. On essaye de mettre le projecteur sur des zones d'ombre, on essaye d'aller voir ce qu'il y a derrière les discours officiels et d'aider les gens à se forger leur propre opinion. Voilà. Et après, je pense que d'abord, ça réconcilie les gens avec le débat démocratique, avec les élections, avec le système de représentation qui est le nôtre, même s'il est totalement imparfait à mon avis aujourd'hui. Mais c'est ça notre ambition, c'est de faire que on contribue à la formation de citoyens avertis. Qui disent pas tous des pourris ou des machins, mais qui ont envie de s'investir dans le débat démocratique et dans le jeu politique. Voilà.
Puis c'est lutter contre l'abstention. Je pense que si le
Oui.
gros morceau, l'éléphant au milieu de la pièce, bah, c'est l'abstention. Comment on combat l'abstention? Parce que bah, nous, voilà, on est passionnés de politique, donc l'abstention, forcément, c'est une très mauvaise chose. Il y a des abstentionnistes, hein, très bien, ça se défend, mais on aimerait aussi participer à un retour aux urnes. Alors c'est très ambitieux, mais on aimerait y participer.
Mais soyons clairs, moi je ne cherche pas à ce que les gens soient d'accord avec moi. Juste ce qui m'intéresse, c'est qu'ils disent, bon, ouais, mais c'est pas trop con là, ce qu'il vient de dire. Si à la fin d'une chronique, les gens disent, c'est pas trop con ce qu'il vient de dire, ça va, moi le pari il est rempli, la promesse elle est remplie, le pari il est gagné. Voilà, c'est simplement poser le petit élément qui fait qu'on commence à réfléchir et on commence à aller au-delà du prêt-à-penser, de l'espèce de bouillie que d'autres médias nous servent quotidiennement. C'est juste ça qu'on cherche à faire, pas plus. On n'est pas prétentieux, on n'a pas la vérité révélée. Encore une fois, j'ai rien à vendre, on n'a rien à vendre, hein. On n'a pas de carte de parti à vendre. Voilà. Et puis, on a la religion des faits. Ça, ouais. Ça, c'est, je pense, la grande ligne qui nous sépare d'autres médias, c'est que les faits priment sur le reste. Voilà. Même si les faits desservent des gens qui, par ailleurs, peuvent nous être sympathiques philosophiquement. Voilà.
Il y a du coup Twilix ou Twilix, je ne sais pas comment on dit, qui dit je ne serais pas aussi catégorique en disant que l'abstention est un problème pour moi. Je suis totalement d'accord, le problème c'est que l'abstention n'est pas reconnue, le vote blanc n'est pas reconnu, une majorité de vote blanc ne fait pas annuler une élection. Enfin, vous voyez, après c'est un débat qui est long, mais l'abstention, là, dans la Ve République, est un problème parce que ça va nulle part, on ne sait pas ce que c'est un peu comme la matière noire dans l'univers, on sait qu'elle est là, mais on n'arrive pas à la définir, quoi.
C'est bien pour parler de la matière noire pour le vote blanc, c'est pas mal. Non, mais sur le vote blanc, alors là, vous parlez, puisqu'on en parle, moi je suis un partisan convaincu de la prise en compte du vote blanc dans les scrutins. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, le vote blanc est reconnu, mais il ne rentre pas dans le scrutin, dans le décompte. Si on fait rentrer les votes blancs dans le décompte des suffrages exprimés, ça change énormément de choses. Et ça permet aux gens, eh ben, d'exprimer leur point de vue. Là, on le prend en ligne de compte. qu'on s'abstient, bon, on dit machin, il m'intéresse pas, c'est tous des cons, j'y vais plus, j'en ai marre, j'ai l'impression de me faire avoir à chaque fois. Très bien, mais à ce moment-là, on fait le jeu de ce que justement on ne veut plus cautionner. Bon, si on offre à l'électeur la possibilité non seulement de voter blanc, ce qui est possible aujourd'hui, mais si on prend en compte les votes blancs dans le résultat de l'élection, ça change complètement les rapports de force. Ouais. Voilà. Et donc, ça rend le vote utile, même quand on va voter blanc.
Exactement. Une question de KP qui est là depuis le moment. On la traite enfin, ta question. Comment verriez-vous l'évolution à venir des partis historiques de droite et de gauche, Serge ? Je suis curieux de votre opinion.
Ah ben...
Les boules de cristal, Madame Irma.
Alors, moi, je fais pas Madame Irma, mais très rapidement, à grands traits. Je pense que le macronisme, Emmanuel Macron, est l'exemple même de ce qu'on appelle le bonapartisme en France. C'est-à-dire que c'est un parti qui se crée autour d'un individu qui entraîne derrière lui un certain nombre de gens. Le problème, c'est qu'une fois Macron sorti de la partie, je doute fort que Renaissance survive très longtemps à l'absence de... Bon, il y aura toujours un parti Renaissance, mais il n'aura ni le poids qu'il a aujourd'hui, et c'est un poids assez faible d'ailleurs, on le voit. Hein, le résultat aux dernières sénatoriales n'était pas terrible, c'est un parti avec des adhérents un peu évanescents, on va dire, voilà, et c'est un parti qui a vocation à être un parti godillot, comme jamais un parti n'a été godillot sous la Ve République. Bon, c'est un peu le parti des Playmobil, hein, voilà. Donc, une fois Macron disparu, je pense que il va y avoir un retour aux clivages anciens, c'est-à-dire entre la droite et la gauche. Alors ensuite, il y aura des recompositions, je pense, à droite. C'est-à-dire que, alors, il y a deux lectures, hein, très rapidement. Il y a un certain nombre de gens qui pensent que les socialistes qui sont allés chez Macron vont prendre leur petite valise et revenir au Parti socialiste. Certains font ce pari, c'est notamment Cazeneuve, Carole Delga et d'autres, disons toute l'opposition à Olivier Faure, qui mise beaucoup sur le retour des enfants perdus qui rentreraient au bercail. Bon, pourquoi pas, c'est peut-être possible, j'en suis pas entièrement convaincu, mais en tout cas, ils vont se retrouver orphelins, ça c'est clair. Et puis, il y a la droite. La droite, elle a deux problèmes. Elle a besoin de récupérer ceux qui sont partis chez Macron et ceux qui sont partis chez Le Pen. Et ça, c'est le pari. Alors, ils en sont bien conscients, mais pour l'instant, ils n'y arrivent pas.
Comment tu penses que ça va se passer chez les Républicains, là ?
Bah, chez les Républicains, ils ont le cul entre deux chaises, et en politique, c'est jamais bon, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, ça bascule d'un côté ou de l'autre. Donc il va falloir qu'il trouve un moyen de se démarquer de Marine Le Pen. Alors le moyen, la ligne aujourd'hui de LR, elle est très simple, c'est les propositions de LR sont de plus en plus alignées sur celles du Rassemblement National, et leur argument c'est de dire c'est pas la peine de voter pour le Rassemblement National, votez pour nous parce que nous on a la culture de gouvernement, on a l'expérience du pouvoir, on sait gérer des villes, on sait gérer des régions, on a des gens qui ont été ministres, donc on peut gérer un pays. Marine Le Pen ne sait pas le faire. Donc, vous embêtez pas avec Marine Le Pen, venez chez nous. Bon, ce discours de la dernière chance, j'ai envie de dire. Hein,
on le retrouve chez Darmanin, ça aussi, ce que tu as dit.
Alors non, Darmanin, c'est un peu différent. Darmanin, moi, je suis désolé qu'on fait Darmanin l'artisan d'un continuum qui irait de Macron jusqu'à Zemmour, etc. J'y crois pas. J'y crois pas parce que je pense que Darmanin est sur une ligne différente. Il l'a montré au moment des émeutes de banlieue où il a quand même... il faut lui rendre hommage là-dessus. Enfin, il y avait peut-être une arrière-pensée, certainement. Enfin, lorsqu'il a dit que ce n'était pas une insurrection ethnique, etc., comme le Rassemblement National et une partie de la droite commençaient à le dire.
Avec les fameux débats sur les prénoms.
Oui, mais il y a eu le débat sur les prénoms, mais il y a eu le débat sur les individus interpellés, sur l'âge, etc. Donc il a rappelé un certain nombre de vérités, c'est-à-dire qu'il a, là, pour le coup, ruiné cette tentative de récit que commençait à faire l'extrême droite et une partie de la droite sur le thème c'est les musulmans qui s'en sont soulevés, regardez-les, les vilains barbus, ils ont. Non, c'est pas ça qui s'est passé. C'était une émeute, bien sûr, mais c'est pas une insurrection ethnique telle qu'aimerait le présenter le Rassemblement national et une partie de la droite.
Merci Serge. Toujours très clair avec toi. Une remarque de Capé qui fait plaisir, j'en profite. Je suis vraiment heureux que vous ayez créé Pure Politique. Votre ton plus acerbe et libre est bien mieux qu'à l'époque de Blast.
Bah écoutez, ouais, alors là, c'est une bonne
Moi, je suis
remarque.
100% d'accord, hein.
C'est une bonne remarque. C'est-à-dire, je vais vous dire, on va être sincère, j'ai 64 ans, je vais avoir 64 ans à la fin du mois. Voilà. Donc, l'avantage de cet âge, c'est que, sincèrement, ma carrière, elle est derrière moi, donc je n'ai absolument. Je dis ce que je pense et je n'ai pas de précaution de langage à prendre. Voilà. Et deuxièmement, pure politique, ça tombe bien, comme c'est moi qui l'ai fondé, ça correspond assez à ce que je veux faire. Je suis plutôt cohérent. Mais voilà, ces deux éléments mis bout à bout, ça permet de faire un média où moi je me sens bien, je travaille beaucoup, mais je me sens bien dans ce que je fais. J'aime et je suis content de ces rendez-vous. Ça me fait plaisir de partager les rendez-vous avec vous. Il y a des vannes qui sont un peu parfois un peu vaseuses, un peu machin, mais j'aime bien. Je suis comme ça dans la vie, c'est-à-dire que les petits traits caustiques, un peu machin qui tacle, je suis vraiment comme ça dans la vie, c'est-à-dire je ne me force pas pour le faire. Mais là, si vous voulez, j'ai la chance d'être dans un média où je peux laisser libre cours à ce naturel. Voilà. Et j'ai découvert très tardivement, finalement, très tardivement, que ça vous déplaisait pas. Voilà. Pour le dire autrement, ouais, je ne sais pas si parmi vous il y a des lecteurs de la page 2 du Canard enchaîné, mais c'est un peu cette manière-là de traiter la politique que j'aime bien, c'est-à-dire le côté on n'est pas dupe, voilà, on vous raconte des trucs et on essaye de faire que ce soit marrant, parce que sinon c'est angoissant, c'est déprimant et c'est chiant. Trois choses que je n'aime pas. Donc on essaye de vous raconter ça. Avec un ton un peu caustique, un peu humoristique, qui permet de faire passer le kouglof, hein, parce que sinon c'est un peu lourdingue quand même. Voilà.
Il y a des fun fans te disent je te donnais 52 ans.
52 ans, bah c'est bien. 52 ans au milieu de l'après-midi, ça va. Le matin, en se levant, c'est un peu plus.
Est-ce que tu on va commencer à conclure? Est-ce que tu vois une autre question? Est-ce qu'il y a un sujet que tu veux aborder pour terminer?
Ouais, il y avait des finances. Quelqu'un posait au tout début une question sur
Ah,
est-ce que.
l'autonomie ou
Voilà.
l'autosuffisance.
Bon, alors on va être clair. Aujourd'hui, on a deux fils de ressources. On a Vodon sur Donorbox. Et puis, on a la pub YouTube. En gros, c'est 1 € pour 1 000 vues, hein, je parle. C'est ça,
Et
Maxime, hein.
entre 1,30 et 1,70 les
Ouais,
maximum.
voilà. Donc c'est ça.
Pour 1000 vues.
Voilà, on est dans le créneau habituel des youtubeurs de ce côté-là. Avec vos dons, qu'est-ce qu'on fait? Je paye Maxime à mi-temps. Moi, je me sers un mirifique salaire qui est équivalent au SMIC. C'est mon côté ruffin, ça. Voilà. Donc, je me paye au SMIC. Donc, ben, puis c'est bien, ça remet les idées en place, hein. Je crois que de temps en temps, voilà.
Bah là, l'inflation,
Voilà,
ça y est.
moi, quand je fais mes courses, je regarde les prix, je regarde les étiquettes. Voilà. Et puis, ça nous permet de payer donc les JRI qui bossent avec nous. Certains mois, ça fait une grosse facture. Voilà. Bon, là-dessus, bien, il y a les cotisations sociales, il y a la mutuelle d'entreprise, il y a les déplacements, les reportages aussi qui quand on va, ne serait-ce qu'aller à Valence. Alors, cette année, on est allé à Valence, on aurait bien aimé aller au Havre, on aurait bien aimé aller à Blois, mais franchement, comme tout le monde a eu la géniale idée, ça, c'est la NUPES, hein, de faire les universités d'été le même week-end et que les hologrammes ne sont pas encore abordables, on a été obligé de choisir une destination, donc on a choisi la force la plus importante de la NUPES, la France Insoumise. On est allé là-bas. C'est des nuits d'hôtel, c'est de la bagnole, c'est de l'essence, c'est du péage, c'est de la restauration parce qu'on mange aussi. Voilà. Donc ça fait tout de suite, ça plombe rapidement les budgets. Voilà avec quoi on vit. Le matériel, on s'équipe petit à petit. Il y a des gens qui m'ont dit Serge, qu'est-ce que c'était moche le gros micro que tu avais pendant l'entretien avec Corbière. Ben ouais, mais on n'avait qu'un seul micro cravate. Depuis, on en a acheté un second qui est apparemment bien meilleur que le premier. Parce que le premier, c'est celui que j'utilise pour le Bourbon et il a un gros défaut, c'est qu'il sature. Donc, de temps en temps, que moi, j'ai une grosse dynamique de voix, c'est-à-dire je parle parfois très doucement, puis parfois en l'air, je monte dans les aigus. Mais, et en plus, parfois, je crie un peu dans le micro. Voilà. Donc, le micro sature et ça fait un truc dégueulasse. Donc voilà. Donc, voilà, vous avez l'explication du gros micro. Maintenant, nous aurons deux micros cravates, dont un qui est de très bonne qualité, qui sera donc sur l'invité. Et moi, j'essaierai de parler un petit peu plus doucement sur le micro que j'utilise d'habitude. Voilà.
Et donc, un petit point un peu plus technique, concret sur les dons. Donc, il y a la monétisation, mais ça représente une petite partie, en fait, finalement.
Aujourd'hui, on fait en don, on fait le double de la pub, voilà quoi. Donc, alors ça dépend des mois, hein. C'est un peu compliqué parce que alors au mois d'août, il n'y avait pas d'émission, donc effectivement, il y a deux types de dons, comme vous le savez. Il y a des gens qui ont choisi de s'abonner, et je vous invite vraiment à.
De quoi on a besoin concrètement là, tu vois, pour passer à la vitesse supérieure?
Bon, aujourd'hui, il faut qu'on double le budget. Faut qu'on double le budget.
Et donc, nous, ce qu'on a besoin, c'est des abonnements. Ça démarre à 3€ par mois sur DonorBox. Voilà. Et chaque don, je le répète, donne accès à un serveur Discord de la communauté, à un fil Telegram qui est actif, et à une newsletter. Bon, c'est des petits bonus, c'est des petites contreparties. Mais c'est vrai que le mieux, c'est les abonnements. C'est à partir de 3€ par mois. Donc, si il y a quelques centaines de personnes qui font le pas là... déjà pour la fin de l'année, ça va être bien, quoi.
Voilà. Si vous pouvez augmenter vos dons, les dons qui sont récurrents, ça nous aiderait bien. Je vous expliquer pourquoi. Pour rentrer dans un local, parce que moi j'ai commencé à prospecter, j'ai appelé, etc. Alors d'abord, les bailleurs demandent ceinture et bretelles, c'est-à-dire quand on est une société, c'est ah ouais, d'accord, machin. Bon, mais alors moi, je veux 4 mois, 5 mois d'avance, 6 mois d'avance de loyer. Donc, même pour un loyer à 2000 balles, voilà. Moi, j'ai calculé que par rapport à l'espace dont on a besoin, il faut miser sur un loyer à 2000 balles, 2000€. Bon. On peut l'envisager aujourd'hui dans le cadre de notre budget en se disant, c'est une économie d'échelle. Si avec un studio, on peut produire davantage de contenu, on peut espérer qu'il y aura plus de dons et que ces dons viendront compenser la dépense qu'a généré le fait de louer ce nouveau local. Donc, voilà. Mais d'abord, il faut arriver à faire la bascule. Et pour faire la bascule, quand on nous dit « Ah ben, il y a une commission d'agence, monsieur, et les commissions d'agence pour des locations de bureaux, des locations commerciales, c'est pas les commissions d'agence pour louer un appartement. L'immobilier en région parisienne, vous savez ce que c'est, hein, faut être crésus, hein. Donc tout ça nous pose pas mal de problèmes parce que c'est un frein aujourd'hui au développement de la chaîne. C'est clair qu'on a vraiment besoin de passer à la vitesse supérieure. Ce qu'on voudrait, nous, à terme, très rapidement, c'est arriver à vous proposer 5 contenus par semaine, voilà. Fait par d'autres journalistes. Donc, vous verriez sur Pure Politique des gens, des têtes nouvelles qui ont, je l'espère, ou qui auront, je l'espère, aussi mauvais esprit que je puis l'avoir, mais qui auront chacun aussi leur personnalité, qui apporteront un tempérament, etc., mais qui seront à l'unisson avec le projet de Pure Politique, c'est clair. On a une ligne éditoriale, on s'y tient, et puis on ne vient pas par hasard à Pure Politique, on vient parce que finalement, on est attiré par ça, par le projet. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, pour rentrer dans un local, c'est vraiment dur. On a essayé plein de choses. Hein. On est allé voir assez loin même de Paris, Carrefour Pleyel, etc. Et donc, des trucs, c'est pas la porte à côté. Parce qu'on a besoin quand même d'un... Franchement, on arrivera à trouver un grand garage avec de l'électricité et tout. Ça nous irait très bien, mais on a besoin que ce soit un grand garage, vous voyez. On a besoin tout simplement de plusieurs mètres de recul pour pouvoir installer des caméras, pour pouvoir installer un plateau et pour pouvoir poser nos affaires. Ce n'est pas de bureau pour écrire derrière un ordinateur, ça on peut le faire n'importe où, même dans le métro. On a besoin d'un endroit avec suffisamment de champ pour pouvoir tourner et faire des images propres. Voilà. Et ça, on n'a pas encore trouvé.
Allô? Oui, Serge a un problème. Serge est capoute. Revenir, alors je... Ah, il est de retour, Serge. Oui, tu t'es parti et t'es revenu. Alors, attends une seconde.
Je suis toujours
Voilà,
demandé.
t'es à
Voilà.
l'écran, c'est bon.
Je suis à
Et
l'écran.
on a perdu Serge 30 secondes. Donc, si tu
Voilà.
peux revenir, c'était le local, garage.
Voilà, alors voilà.
C'est
Donc, je suis revenu. Moi, je ne me vois plus, mais je pense que c'est
bon,
bon.
t'es revenu,
C'est
tout va
bon.
bien.
Donc, on a besoin d'un grand espace pour pouvoir poser les caméras et on a besoin de champ, c'est-à-dire de distance pour pouvoir filmer. On a besoin de 4 ou 5, 6, 7 mètres de recul pour pouvoir filmer et faire des images de différentes tailles. Donc, c'est ça qui est compliqué. Parce que vous voyez là le bordel qui est derrière moi, il y a une porte et pour tourner, moi j'ouvre la porte et je suis dans mon salon qui donne sur le jardin et je tourne quasiment depuis le jardin pour arriver à tourner le Bourbon. Bon, donc au bout d'un moment, d'abord ça gêne tout mon entourage et puis au bout d'un moment, quoi, le bricolage ça prend un temps infini, quoi, tout se casse la gueule, il faut tout rebrancher, c'est un vrai calvaire. Donc, on a besoin essentiellement de ça. Et puis, deuxièmement, s'il y a un autre journaliste ou une autre journaliste, il faut qu'elle puisse aussi, il faut qu'il puisse faire ses émissions. Donc, il faut un lieu d'enregistrement pérenne, voilà. Et donc, pour rentrer dans un local, c'est cher, voilà, c'est cher. Alors, je ne sais pas, on réfléchit avec Maxime. Donc, je vous disais que moi, je vais faire des demandes de subventions, donc les aides à la presse. Après tout, j'ai vu que certains confrères se démerdaient bien. Tant mieux pour eux. Moi, si je peux effectivement aussi avoir quelques centaines de milliers d'euros pour Pure Politique, ça nous permettrait de passer la vitesse supérieure. Voilà.
Ah oui, là, clairement,
C'est...
100 000 euros pour nous, on vous
Ah,
prend.
pour nous, c'est le bout du monde. Avec 100 000 euros,
Ah ouais.
on vous fait de l'orfèvrerie tous les soirs. Voilà. Et
Enfin,
puis, on va.
cinq fois par semaine.
Voilà. Et on va aussi se tourner vers les aides du CNC. Voilà. Donc, on va taper à la porte, on va remplir des dossiers auprès de tous les organismes officiels. Mais ça prend du temps. Il y a un côté un peu à la tête du client aussi, qui est un peu. Moi, je ne maîtrise pas tous les rouages qui font que certains sont aidés, d'autres pas. Voilà. Encore une fois, moi, je ne jette pas la pierre aux aides publiques. Hein. Il y a eu un débat avec Edoui Plenel, lui qui dit Mediapart, nous, machin, on n'est pas financé, on est totalement indépendant. Moi, je ne pense pas que prendre une aide à la presse nous aliène de quelque manière que ce soit. Voilà. Ce qui m'embête en revanche, c'est que quand des titres installés et bien installés comme Le Monde, Le Figaro ou le groupe Lagardère prend chaque année des aides à la presse, je trouve ça un peu fort de café, quoi. Les aides à la presse, on pourrait supposer que pour aider le pluralisme de la presse, il vous conviendrait peut-être d'aider les médias émergents. Encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir tout chaque année notre petite enveloppe, ce n'est pas ça. Mais nous, aujourd'hui, on est dans un moment de bascule où Pure Politique, qui était un projet un peu improvisé, a trouvé son identité, a trouvé son public. Et aujourd'hui, notre problème, c'est de passer à la vitesse supérieure, d'améliorer notre offre éditoriale, de pouvoir vous proposer davantage de contenu, d'être plus réactif, d'être plus professionnel, d'être plus pertinent. Et tout ça, ça demande de l'argent. Et donc, on compte bien sûr sur vous, mais on va aussi aller taper à toutes les portes possibles, toutes les subventions qui peuvent exister, puis on va voir, hein. En tout cas, de toute manière, on est bien décidé à développer la chaîne et surtout à faire venir d'autres visages. Moi, j'ai envie aussi qu'il y ait d'autres visages sur la chaîne, des tempéraments un peu différents, dans le même esprit, hein, ce sera la même ligne éditoriale, mais d'autres tempéraments, voilà, parce que...
Il faut rafraîchir aussi, faut rafraîchir le contexte des médias indépendants. Je pense que ça ferait du bien. Et puis, on est prêt, en fait, à diffuser. Serge et moi, ça fait plus de 4 ans déjà qu'on travaille ensemble. Moi, des diffusions, 5 contenus par semaine, je sais faire. J'attends que ça, Serge aussi, et c'est possible. Un contenu par jour en semaine, on va dire hors week-end. Après, les week-ends, c'est différent, c'est les manifs. On est prêt. Il n'y a pas de problème. Les formats, on y réfléchit, la stratégie et tout. Voilà, après, il y a le côté financier, mais ça, malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu le cas de tout le monde, quoi.
Alors, il y a Marianne qui nous dit pourquoi pas une grosse maison en banlieue proche permettant une colocation des différents acteurs de la chaîne Pure Politique à condition d'aimer la vie en communauté. Bon, on n'a pas envie de s'égorger ensemble, mais non, ce projet, trêve de plaisanterie, ce projet a existé puisqu'il y a oui, je ne sais pas si c'est un milliardaire ou un millionnaire, enfin. Un monsieur Legrain, qui, ça date de 2018, avait comme projet de faire une maison des médias dans lequel l'idée c'était de dire, bon, finalement, de quoi ont besoin les médias? D'un endroit pour tourner, ceux qui font de la vidéo, mais ils n'en ont pas besoin 24 heures sur 24, donc on peut peut-être arriver à mutualiser des installations ou en tout cas un espace qui permettrait de réaliser ces tournages. Puis ils ont besoin de petits bureaux pour réunir leurs équipes et voilà. Et on pourrait mettre tout ça dans une grande maison qui s'appellerait la maison des médias. Et donc le projet au départ, je crois que c'était de récupérer le, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était l'ancien immeuble de Tati du côté de Barbès qui devait être récupéré, aménagé étage par étage et puis permettre aux différents médias de s'installer. Je trouvais que c'était une bonne idée moi parce que ça permettait d'une part de rencontrer des gens, de brasser des idées, d'envisager des collaborations, de mutualiser des moyens. Voilà, c'était un projet qui me semblait intéressant. Alors, je sais que finalement, ça ne s'est pas fait. Je sais que donc ce monsieur Legrain a pas abandonné le projet, mais je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui concrètement. Mais une maison des médias, ça pourrait être un truc intéressant. Au moins, à titre transitoire, c'est vrai que, par exemple, Pure Politique irait poser ses valises pendant un an ou deux dans un lieu qui pourrait l'accueillir. Un tarif modeste, voire gratuitement, le temps de prendre son envol, ce serait pas mal. C'est ce qu'on appelle un incubateur, hein, d'entreprise. En gros, nous, on a besoin de ça aujourd'hui. Si vous avez dans vos connaissances des gens qui peuvent nous aiguiller vers des incubateurs et surtout nous trouver des locaux, voilà, c'est ce dont on a besoin.
On va conclure, Serge,
Ouais.
à moins que tu sois bien pris au jeu et que tu veux relancer une question.
Voilà. Non, il y a quelqu'un qui me dit un espace pouvant abriter un ou deux studios partagés entre plusieurs médias indépendants. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Parce que chacun à ce moment-là vient avec ses caméras. On peut même envisager d'acquérir tous ensemble une régie. Une régie, c'est là où il y a le mec devant une tripotée de boutons, me demandez pas comment ça marche, hein. Pour moi ça tient un peu de la magie, et des curseurs et qui bascule d'une caméra sur l'autre, etc. On pourrait envisager ça, cette installation en fixe. Pour le reste, chacun vient avec son décor, vient avec ses caméras, tourne son émission, et puis juste on bloque des créneaux, voilà. Alors il y a eu plusieurs projets comme ça, hein. Il y avait un truc qui s'appelait un local qui s'appelait toujours d'ailleurs, je crois, l'antenne dans le 11e arrondissement où le média, le média, le média a été installé avant de commencer à d'aller s'installer à Montreuil. Et au départ, l'idée, c'était ça. C'était qu'il y avait, Baxit, qui à l'époque s'appelait Acropolis, qui était installé là-bas aussi. Et il y avait donc un grand studio au sous-sol qui aurait permis à chacun de... Je dis qui aurait permis parce que les tarifs étaient un peu prohibitifs. Voilà. Enfin, en tout cas, les tarifs étaient assez démesurés pour des médias indépendants qui n'ont pas énormément d'argent. Voilà. Mais cette idée de mutualisation d'un studio, moi, me semble importante. Voilà.
J'ai détecté des petites questions intéressantes et on va finir sur le...
Ah ouais, alors attends, une question.
Sur les deux. Ah non, c'est laquelle que tu as vue, vas-y.
D'ailleurs, il vient d'où ce slogan de fin, sinon rien? Alors, c'était parce que ma précédente émission s'appelait Un bourbon, sinon rien. Voilà. Donc, ceux qui me suivaient chez mon précédent employeur, c'est un petit clin d'œil, voilà.
Tu peux nous le faire, sinon rien, là?
Non, pas devant mon écran, il me faut un peu d'espace, tu sais, c'est un peu comme... C'est le problème du local, là. Je suis devant mon ordinateur.
L'écran, là, c'est dommage.
Je ne vais pas péter l'ordinateur.
Okay.
Voilà.
Et celle sur les européennes, juste au-dessus.
Voilà, non, je ne l'ai pas vu. Alors, c'est quoi sur les européennes?
Avez-vous prévu quelque chose pour les européennes?
Oh ben oui, sur les européennes, on va suivre, bien sûr, activement la campagne. Pourquoi? On va se parler franchement. Nous, on a remarqué que l'audience fait des bons spectaculaires dès qu'il y a une actualité politique forte. Élections. Mouvement social, on fait des bons, on double facilement les audiences. Hein, on fait des 200 000, 300 000, voilà, sans aucun problème. Parce qu'il y a une demande d'information à ce moment-là. Il y a une volonté d'avoir une information politique. En temps ordinaire, les gens disent, ouais, bon, c'est sympa la politique, mais enfin, il y a une vraie désaffection pour les politiques, quoi. C'est clair. C'est en choisissant de faire une chaîne politique, on n'a pas pris le plus facile. Hein. Parfois, je me dis, mais pourquoi on n'a pas fait les chats, les chiens? Tout le monde aime les chats et les chiens. Voilà.
En plus, moi,
j'ai un chat et un chien. Je pourrais vous en parler à longueur de temps. Voilà. Mais malheureusement, aujourd'hui, la politique souffre d'une désaffection et d'une déception. Voilà. On parlait de la NUPES au début, mais la NUPES a réveillé la politique. Beaucoup de gens se sont remis à croire dans la politique, à gauche en tout cas. Les gens qui désespéraient en disant putain, on n'y arrivera jamais, on n'en sortira jamais, c'est tous des cons. Voilà, bon, tout à coup, il y a ce truc incroyable de la NUPES en 15 jours. Ça marche et tout le monde dit ah, c'est peut-être possible. Enfin, on va peut-être un jour revoir la gauche au deuxième tour. Au moins la revoir au deuxième tour. Et patatras, un an après, quand même, l'objectif semble un peu plus lointain. Voilà. Et donc, cette désaffection, nous, on est très tributaires un peu du climat politique et de ces moments de résignation. Moi, j'ai vraiment, et ce sera mon mot de la fin, tiens, je partageais beaucoup ce que disait Ruffin à la fête de l'UMA. Il a fait une, d'ailleurs, que j'ai mis sur le reportage qu'on a fait là-bas, en disant que finalement, le principal ennemi aujourd'hui de la démocratie, c'est l'indifférence, la résignation, cette espèce d'abattement. Et il disait quelque chose qui est très juste, que moi, j'ai pu vérifier dans les manifestations contre la réforme des retraites, où plein de gens étaient là, mobilisés, déterminés, volontaires, mais quand même, il y avait une espèce d'arrière-pensée ou de à la fin on va se faire avoir, à la fin on gagnera pas. Voilà, il y avait une espèce de on se bat, mais on se bat un peu pour voilà, c'est un peu pour le panache, mais il y avait ce sentiment qu'on va pas y arriver. Alors d'abord, je pense que ça, il faut arriver à casser ce sentiment. C'est parce que l'abattement, c'est terrible. Et c'est pas uniquement pour la gauche, je parle pas uniquement pour la gauche. Moi, je préfère des gens investis en politique, quels que soient les partis. Je le dis très clairement, je pense que les affaires de la cité, il n'y aura jamais assez de gens pour s'en occuper et s'en préoccuper. Donc, je pense que le repli sur l'individualisme, sur l'indifférence, sur la résignation, il n'y a rien de pire pour un pays. ne s'agit pas d'une force politique, il s'agit du pays. C'est-à-dire que la France aujourd'hui est quand même, il y a une sinistrose extraordinaire, une espèce de voilà, et c'est contre ça qu'il faut lutter. C'est-à-dire redonner confiance dans la possibilité de reprendre en main les événements, d'agir sur le réel. C'est ça la politique, c'est pas autre chose. Hein. C'est pas du baratin, c'est pas du blabla. C'est agir sur le réel, dans le concret. Cette possibilité, elle existe, elle est réelle, et il faut convaincre les gens que c'est possible. Voilà, et c'est nous ce qu'on essaye de faire.
Bon, bah sur ces belles paroles, merci beaucoup Serge de t'être prêté au jeu. Et merci à toute la communauté, une fois très nombreux. Merci pour vos encouragements, merci pour votre fidélité. Vraiment, c'est incroyable sur Pure Politique ce qu'on arrive à faire et ce qu'on va faire. On l'espère de tout cœur. À très bientôt. Enfin, à demain pour un Bourbon, Serge, c'est ça?
Sinon rien.
Sinon rien. Ah, je l'ai eu. Allez, bonne soirée à toutes et à tous.
Bonne soirée à tous.
Salut Serge. Ciao, ciao.
Salut Maxime.